Françaises, Français, bonjour.
Le général de Gaulle est mort.
C'est pas la gauche, la France.
La France est veuve.
C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
En 1944, il nous a conduit à la libération. Il a donné à la France actuelle ses institutions.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement.
Vous êtes à l'écoute de De Gaulle 2020, l'émission qui nous replonge dans les méandres de la personnalité complexe et tourmentée du général De Gaulle, de son histoire singulière, qui est aussi la nôtre, puisque De Gaulle prétendait rien que ça, être la France, prétention dont, au fond, nous avons, avec le temps et le recul de l'histoire, accepté l'augure. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste, disait-on, de son vivant. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les forces politiques du moins, s'inclinent devant sa statue. Mais qu'est-ce qui, en 2020, peut nous relier encore au général 50 ans après la mort de cet homme né au 19e siècle? C'est ce que nous explorons à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche de l'été.
De Gaulle 2020.
C'est lui qui a dit tout le monde est, a été ou sera gaulliste, n'est-ce pas?
Thomas Legrand, sur France Inter.
Notre pays, tel qu'il est, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur.
À l'heure où l'on parle de déboulonner les statues, il en est une qui est bien arrimée à son piédestal, c'est celle du général de Gaulle. Et pour cette première émission, nous allons explorer le mythe qui s'est installé. De Gaulle, à l'instar de Jeanne d'Arc ou de la Tour Eiffel, est un monument national contesté au début et sans lequel aujourd'hui il serait impossible de concevoir la France. Alors pour cette première émission, nous allons nous pencher non pas sur les raisons historiques, les victoires politiques et militaires en général, qui lui ont donné cette place de choix dans notre récit national, ces raisons ne suffisent pas pour faire un mythe. Plusieurs personnalités vont nous aider dans cette radiographie du mythe de De Gaulle. Et d'abord, Dominique Schnapper, que nous avions été voir chez elle, recluse, c'était pendant le confinement. Dominique Schnapper, ancienne membre du Conseil constitutionnel, politologue et sociologue. Et
je crois qu'il faut revenir à la formule « tout le monde a été gaulliste à un moment donné ». Les uns en 1940, ils n'étaient pas très nombreux. Au cours des années de 40 à 45, de plus en plus nombreux. Puis, tout le monde a été gaulliste au moment de la libération. Et nous tous, nous l'avons été à un moment donné. Et ceux même qui ne l'auraient pas été avant, l'ont été au moment de l'OAS en 1962.
Certains disent que le général de Gaulle aurait dit « tout le monde est, sera ou a été de Gaulle » et « tout le monde est, sera et a été anti-gaulliste ».
Oui, parce que c'est pas faux, parce que c'est une personnalité complexe et que surtout qu'il a traversé énormément d'événements historiques qui l'ont mis dans une certaine position aux différentes occasions historiques, de sorte qu'il a été apprécié et admiré par différentes personnes à différents moments de son histoire. Mais c'était le temps où le gaullisme était une donnée du présent.
Alors qu'est-ce que c'était que le gaullisme ?
Il y a la personnalité du général de Gaulle qui traverse ces événements d'une façon très très constante, justement. Mais il avait aussi une dimension pragmatique, il avait une dimension historique par définition, et aux différents moments historiques, il a été appuyé par différentes catégories de la population.
D'ailleurs, il parlait souvent des circonstances, ce qui veut bien dire que l'idée de la circonstance est une donnée politique en elle-même.
C'était un homme politique, et un homme politique, par définition, s'adapte aux circonstances, même s'il essaye de les maîtriser le plus possible. Mais enfin, dans le cas du général de Gaulle, où les circonstances ont été, au début de sa grande carrière politique, c'est-à-dire à partir de juin 40, les circonstances étaient fortes, et il ne les maîtrisait pas. Ce qui est admirable, c'est qu'il ait réussi à les traverser, et à construire cette mythologie que la France s'était délivrée elle-même. C'était l'héritier d'une lignée, disons, conservatrice, de la France traditionnelle. En même temps, son père avait été Dreyfusard, c'est-à-dire qui était ouverte au monde moderne, même s'il ne l'aimait pas spécialement. et qui était animé par un profond patriotisme, le patriotisme étant la France ou la nation plutôt que les Français.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Alors s'il y a des phrases qui ont forgé le mythe de Gaulle, c'est bien cette anaphore scandée à Notre-Dame de Paris le 25 août 44, alors que des tireurs isolés allemands sont encore dans les parages. De Gaulle avait conscience qu'il faisait l'histoire à ce moment-là, et même qu'il construisait un mythe, pas encore le sien, mais celui de la libération des Français par les Français. Là, le mythe veut dire affabulation. Mais l'histoire, c'est ce qui est dit et ce qu'on en retient, ce qui reste. Il a choisi le lieu, les mots prononcés comme on grave dans le marbre. Denis Tillina, qui est un écrivain tellurique, admirateur du général, il assume la nostalgie qu'il délivre dans son dictionnaire amoureux du général chez Plon.
C'est un homme de mémoire, donc c'est un homme de mémoire. C'est un homme qui toujours, toute sa vie, a invoqué dans son action de soldats puis de chefs la mémoire longue de l'histoire de France. Il en est pétri, et puis c'est, je dirais, sans exclusive idéologique ou partisane, hein, ça va de Saint-Louis à Lazare Carnot en réorganisant l'armée de la Convention et les soldats de l'an 2, ça va de Vauban à Clémenceau. Bon, mais c'est quand même un homme d'ordre, il croit à l'État par-dessus tout. Vous savez, il a dit un jour à un de ses collaborateurs, pour moi c'est très important, il y a trois choses qui comptent dans l'ordre. Un, en premier lieu, la France. Deux, l'État. Et en trois, seulement en trois, ça compte, le droit.
Il n'y a pas la République.
Elle arrive après. Vous savez, le principe même républicain a été très contesté depuis l'abolition de la royauté et l'exécution de Louis XVI. Hein. On a eu quand même deux empires, trois républiques, jusqu'à De Gaulle, plus des gouvernements intermédiaire, je pense à celui de Thiers après la Commune, je pense évidemment à celui du maréchal Pétain sous occupation allemande. Un quart au moins des étudiants de Normale Sup avant la guerre sont monarchistes. Après son discours à l'hôtel de ville et le lendemain le Magnificat qu'il chante à Notre-Dame de Paris, je dirais la République qu'il refonde fait consensus, parce que la France politique va reposer maintenant sur trois pieds, les mêmes qu'aujourd'hui: le monarchisme, le républicanisme et le bonapartisme. Et maintenant, plus personne ne conteste ça. On peut vouloir la 6e République, la 7e, mais toujours la République est au fond la sienne, celle qu'il a fondée en descendant les Champs-Élysées avec Leclerc, Koenig et ses compagnons.
Dominique Schnapper.
Je crois qu'il était tout à fait rallié à l'idée de la République. C'était peut-être pas au
cœur... Les partis gaullistes ont toujours le mot République, le RPF.
Oui, dans aucun moment, même si certains ont pu le craindre, l'ont craint à certains moments et ont défendu la République contre lui, mais à aucun moment il ne s'est conduit contre la République. Il n'y a jamais eu de dimension du général Boulanger, ni dans la pensée, ni dans l'action et dans les écrits du général de Gaulle.
Mais il y a quelque chose d'un peu monarchique à prétendre comme ça être la France, représenter la France. Alors, pendant la guerre, il incarnait même la France pour pas que ça soit Pétain et l'affaissement qui soit la France, mais pour faire un pont entre l'avant et l'après. Il y a quelque chose de éminemment monarchique, non ? Ou...
Monarchique au sens propre du terme, c'est-à-dire non pas royal, mais le sens de l'unité de la nation qu'il incarnait, qu'il pensait incarner à un certain moment.
Dominique Schnapper, fille de Raymond Aron, arrive à Londres avec son père. Elle est envoyée dans un collège avec d'autres enfants français, des enfants de résistants. La vie de la petite fille croise celle du grand homme.
Mon père était considéré comme anti-gaulliste à Londres.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'était pas un féal du général de Gaulle. Nous parlions du monarchisme du général de Gaulle, où on était un féal ou bien on était considéré comme critique. Quand il est parti en juin 40, je ne sais même pas s'il avait entendu le discours du général de Gaulle. Il partait pour être parmi ceux qui voulaient continuer la lutte et qui n'acceptaient pas l'armistice.
Et ça, et ça fait pas de vous un gaulliste immédiat.
Il a eu affaire à la réalité gaulliste de Londres et aux formes qu'elle a pu prendre. Mais en juillet 40, lisez Daniel Cordier, ils étaient à la fois très peu nombreux, issus de milieux très différents. Beaucoup de ceux qui avaient été rapatriés par les Anglais sont repartis en France. Il y avait, en gros, il y avait 3000 personnes. Et il fallait bien que le général de Gaulle crût qu'il incarnait la France en elle-même pour qu'à partir de ce tout petit noyau de gens, et de gens extrêmement différents les uns des autres, qui ne formaient en aucune façon un parti, finalement, soit avec beaucoup de difficultés, et toute l'histoire de la guerre le montre, reconnu par les Alliés comme faisant partie des vainqueurs de 1945. C'est tout de même un tour de force à partir de ce dont ils partaient.
Ce qui gênait Raymond Aron, c'était l'idée que cet homme prétend incarner la France.
C'était l'idée, il a écrit en 1943 un article très sévère qu'il a beaucoup regretté après.
Qui
lui a été beaucoup reproché par les gaullistes, qui s'appelait « L'ombre des Bonaparte », et dont il a tout à fait reconnu qu'il n'y avait pas eu ce danger qu'il percevait. Et il percevait ce danger à cause du style particulier du général de Gaulle et de la situation dans laquelle, à Londres, il fallait tout accepter du général sans critique. Or, c'était un homme qui gardait son indépendance d'esprit et qui, tout en étant dans le milieu gaulliste au sens large du terme, à l'intérieur de ce milieu gaulliste, représentait une sorte d'opposition.
De Gaulle, 2020. Thomas Legrand, sur France Inter.
Le mythe, la légende de Gaulle ont aussi été bâtis par des hagiographes. Étrangement, ce sont surtout des gaullistes de gauche qui se sont le plus adonnés à l'art statuaire. Peut-être avaient-ils besoin de justifier leur amour pour un général de la sorte par un surcroît d'éloges. Malraux, ses chaînes qu'on abat, puis des textes de Mauriac, de Gary, de Gaulle et la Terre de France de Michel Cazenave. Et puis des biographies élogieuse de Paul-Marie Lagorce, de Jean Lacouture, des mémoires en tout genre de ses collaborateurs plus ou moins proches, mais toujours sélectivement bienveillants. Enfin, aujourd'hui, pour apporter sa pierre à la légende, un drôle de livre de l'écrivain Philippe Le Guillou, plus habitué à portraitiser les papes, Colombet, l'autre colline inspirée, titre lui-même inspiré de Barrès, l'un des auteurs fétiches du général. Tous les ans, Philippe Le Guillou se rend à Colombet. Nous l'avons rencontré chez lui, au milieu de son fatras de livres au cœur de Paris.
Donc c'est un livre qui est à la fois, je dirais, une visite. Il y a peut-être aussi un petit côté pèlerinage, parce que j'ai une telle admiration pour lui, que je retourne toujours à Colombet avec une profonde émotion, que ce soit d'ailleurs à la boisserie que j'évoque très précisément, je crois, et puis aussi au cimetière, à l'église, qui fut d'ailleurs le théâtre de son enterrement en novembre 70. Donc c'est une visite de tous ces lieux profondément gaulliens qui sont à la fois des lieux de l'intimité gaullienne, puisqu'il est là-bas, un peu dans le secret d'ailleurs de la traversée du désert sous la 4e République. C'est là qu'il écrit, c'est aussi le refuge, le havre de l'écrivain Charles de Gaulle. Et donc c'est tout ça que j'essaie de voir en évitant donc les lieux parisiens que j'évoque peut-être d'ailleurs indirectement, qui sont peut-être des lieux que l'on connaît plus et qu'on associe beaucoup plus à de Gaulle. Je pense bien entendu à l'Élysée, aux Invalides, à l'Arc de Triomphe, à Notre-Dame.
Alors c'est un livre assez étonnant parce que il pourrait paraître un peu anachronique, c'est-à-dire dans son style, presque, j'allais dire, hagiographique. J'aime pas tellement ce terme pour ce livre parce que il pourrait paraître un peu péjoratif, mais j'en trouve pas d'autre. Hagiographique.
Moi, je récuse pas le terme d'hagiographique, si vous voulez. C'est un livre de célébration. Je suis un pèlerin, je le disais, ou un visiteur, donc je m'associe pleinement à cette dimension légendaire. Il y a une dimension de ferveur aussi en évoquant ce personnage, parce que sans doute c'était aussi un petit peu le monarque du temps de mon enfance. Moi, je suis né en 1959, donc j'ai quasiment l'âge de la cinquième République. Et donc il y a aussi des émotions d'enfance. D'ailleurs, finalement, en voyant les scènes de l'enterrement à la télévision que petit élève, petit collégien de sixième, j'avais suivi en direct à l'époque, j'avais rêvé Colombet comme un lieu d'ailleurs très austère, très mélancolique, ce que Colombet n'est pas finalement.
Ah, vous trouvez qu'il n'est pas ?
Non, la campagne est très belle autour, la forêt, évidemment, c'est un lieu de solitude, c'est un lieu.
Ah, c'est pas Saint-Tropez non plus.
Ah non, c'est pas Saint-Tropez. Saint-Tropez, d'ailleurs, le général laissait ça à Pompidou, d'ailleurs, en lui recommandant d'ailleurs de cesser d'y aller. Mais il y a une certaine austérité, mais il y a aussi une certaine beauté du paysage. J'aime beaucoup, moi, à la fois, évidemment, la nature, les champs, les bois, la forêt, extrêmement importante aussi, d'ailleurs, dans la rêverie et dans l'imaginaire de Gaulle.
Alors, la boisserie, vous y allez, dites-vous, en pèlerinage. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous y êtes ?
D'abord, la présence, toujours, du général dans cette maison, qui est une maison très simple.
Tout est resté comme...
Tout est resté. tout est en l'état. On aperçoit le bureau qui est derrière une porte vitrée, le bureau dans lequel la tour hexagonale dans laquelle il s'enfermait pour écrire. On voit la table de jeu à laquelle il était installé, il faisait cette réussite au moment où il est foudroyé, ce lundi soir de novembre 70. On voit ce jardin, il n'aimait pas le mot de parc, ce jardin dans lequel il tournait, faisant toujours la même promenade entre les pages, parce que il écrivait certes, mais il avait un rapport assez douloureux, assez difficile à l'écriture.
C'était laborieux.
Le texte ne coulait pas de source. Il y avait plusieurs moutures, beaucoup de ratures. Il y revenait. Et au moment quand il ne travaillait plus, quand il cessait de travailler justement, il préparait son retour au travail ou son retour à l'écriture en allant marcher dans le jardin. Et c'est ça. Et c'est aussi le lieu de la vie familiale, puisque n'oublions quand même pas que c'est aussi là qu'il avait, je dirais pas caché, mais installé quand même sa fille Anne. Lourdement trisomique.
Vous avez des belles pages sur Anne.
Qui est son grand amour. Et c'est là aussi qu'elle vit. Donc c'est le lieu de cette intimité. Il y a aussi cette grande tradition d'austérité française, si vous voulez. Il n'y a rien de beau. Quand Malraux, d'ailleurs, s'y rend, ce qu'il raconte dans les chaînes qu'on abat, il voit les portraits des souverains qui décorent la bibliothèque. Il dit même que d'ailleurs que sous le vitre des encadrements, les photos sont un peu jaunies ou un peu froissées, etc. Rien n'est beau. Mais c'est la maison d'un homme simple, d'un homme qui n'avait pas de goût de luxe. On sait très bien que rien n'était trop beau quand la France se recevait. C'est pour ça qu'il recevait les chefs d'État étrangers à Versailles. C'est pour ça que finalement, la restauration du Grand Trianon, décidée par Malraux, pour lui, pour aussi accueillir les chefs d'État étrangers, la grandeur de la France, et à Colombep, chez l'homme intime, chez l'homme secret, chez l'homme caché, une certaine austérité, une certaine modestie. Et c'est ça qui est très touchant, et que l'on sent aujourd'hui, parce que l'on entre là, véritablement, chez lui.
C'est ma demeure. Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. De quel autre se contenter quand on a rencontré l'histoire ? Le silence emplit ma maison. D'un point élevé du jardin, j'embrasse les fonds sauvages où la forêt enveloppe le site comme la mer bat le promontoire. Je vois la nuit couvrir le paysage. Ensuite, regardant les étoiles, je me pénètre de l'insignifiance des choses.
C'était un extrait tiré des Mémoires de guerre, lu par le comédien Jean de Sailly. Philippe Le Guillou.
C'est aussi, je crois, et ça c'est profondément, profondément français, profondément important, c'est un écrivain. Et l'autre lieu de sa permanence, ce sont ses œuvres, les Mémoires de guerre, les Mémoires d'espoir. Et donc, voilà, c'est tout cela aussi, le général de Gaulle. Et c'est un imaginaire, c'est une légende qu'il a lui-même d'ailleurs créée et magnifiquement entretenue. Pendant toute son action, François Mauriac disait que la Ve République était un grand règne. Donc, il a installé aussi cette image de roi, mais d'un roi écrivain, d'un roi qui écrivait. Il avait confié ça un jour à Romain Gary, qu'il était l'écrivain qui avait été la cible de plus d'attentats. Le général de Gaulle se pense aussi écrivain. Il a toujours été écrivain. Et c'est ça, en fait, aussi, qui est beau dans l'organisation de ce grand spectacle du pouvoir qu'il va faire, avec une France qui vit un petit peu au-dessus de ses moyens, il faut bien le dire. Un rôle qu'il lui attribue, qui est peut-être le rôle, d'ailleurs, d'une France mythique, d'une Gaule éternelle. Mais c'est ça aussi qui est très, très beau dans l'aventure gaulienne.
C'est ça, le général de Gaulle, finalement, c'est de placer la France au-dessus.
Oui.
De ce qu'elle est, des garantes.
Oui. Mais dès la guerre.
Dès la guerre, bien sûr.
Dès la guerre, oui, et de montrer.
Cette prétention à être.
Et puis, aussi, avec la puissance du verbe. C'est ça aussi qui est beau chez le général de Gaulle. Et c'est ça aussi que nous n'avons plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas accuser l'ENA, je ne vais pas accuser le langage technocratique, je ne vais pas. La saveur de la parole, la saveur du verbe gaulienne est absolument exceptionnel. Il peut être à la fois Chateaubriand, Bossuet, évidemment, Peggy, et toutes ces références littéraires l'ont profondément marqué.
Alors il y a les écrivains qui l'admirent.
Chateaubriand, Bossuet, Racine, les grands classiques. Je crois que c'est Claude Roy qui disait d'ailleurs que c'était le dernier écrivain latin de langue française. Donc il y a aussi cette structure de la phrase qui vient évidemment de ses admirations, et Bossuet, et Chateaubriand, le rythme ternaire, la grande syntaxe française, la grande prose française. Tout cela l'a profondément marqué, mais il va être aussi, et ça c'est quand même aussi quelque chose qui est très important dans cette aventure gaulienne, profondément lié à quelqu'un qui n'est pas du tout un écrivain de langue latine, c'est Malraux. qui est au contraire tourmenté, saccadé, heurté. Et là, il y a aussi quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Les écrivains, c'est les écrivains de l'action.
C'est les écrivains de l'action.
Malraux, Kessel.
Malraux, évidemment, et beaucoup. Et le lien, le pacte même passé avec Malraux, réciproquement d'ailleurs, est quelque chose là aussi de tout à fait singulier, je dirais même de tout à fait fascinant.
J'ai l'impression que c'est le chrétien en moi qui me pousse à la politique. C'est le chrétien qui me donne le sens de ma responsabilité, qui éveille ma responsabilité. Je ne m'occupe pas de politique, bien que je sois chrétien, mais c'est parce que je suis chrétien, certainement, à la racine. Si vous voulez, ce qui a joué quand j'avais 18 ans, au moment de ma rencontre avec Marc Sagnier, n'est-ce pas, qui était, comme vous savez, un catholique enfin, tout à fait passionné, et un grand croyant, eh bien, ce sont certainement les mêmes raisons, ou du moins, une des raisons essentielles qui me poussent à l'action, c'est certain.
C'est la voix fatiguée de François Mauriac que l'on vient d'entendre dans une archive de l'INA du 9 juillet 1958. Alors Mauriac a marqué De Gaulle et a été marqué par le général De Gaulle, bien sûr. Ce qu'ils avaient en commun, c'est cette catholicité. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Philippe Le Guillot ?
Je crois que le général est un fils de la France chrétienne. Et dans sa formation, il est profondément croyant et il est profondément chrétien. Il gardera toujours cette foi, je dirais, ou cet attachement à cette catholicité, tout en le revendiquant et en ne le cachant pas. Mais quand il est au pouvoir, etc., ça reste en même temps assez discret.
Donc il est laïque.
Par exemple, il ne communie pas lorsqu'il assiste aux grands offices, à la Notre-Dame, mais dans d'autres cathédrales. Je pense par exemple à la cathédrale de Reims ou à la cathédrale de Quimper, à l'occasion de ses voyages officiels.
Il n'invoque pas Dieu,
jamais.
La religion dans ses discours.
Jamais. Au contraire, il a vraiment le souci de faire, je dirais, de respecter, si vous voulez, une ligne de démarcation.
Mais c'est un certain catholicisme, celui du Nord, un catholicisme social.
Oui. C'est un catholicisme social. Il a vraiment conscience que c'est pas simplement, si vous voulez, le. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. On associe souvent à ce catholicisme le conservatisme, une sorte de respect d'un ordre social. Il voit, je crois, il perçoit d'ailleurs dans ce besoin de générosité qu'il verra d'ailleurs presque jusque dans le désir d'ailleurs de la fameuse participation qu'il inclura dans le programme de réforme constitutionnelle de 69, il y a ce désir aussi de justice. Et c'est ça qui est assez beau, c'est-à-dire que on le voit souvent d'ailleurs comme un homme de droite, comme un homme respectant
la tradition et l'ordre,
tradition,
ça, c'est la droite.
La tradition des assis, la droite, mais il n'est pas que cela, il a aussi finalement une ouverture à autre chose, à quelque chose, et surtout il lit évidemment la France éternelle, la France royale, la France monarchique, à la religion chrétienne. Il ne se précipite pas pour rien, d'ailleurs, en août 1944, pour un tédéum à Notre-Dame de Paris. Donc, il associe pleinement la vie chrétienne, mais tout en n'en faisant pas non plus, en ne l'étalant pas. Elle reste, je dirais, le substrat à la fois de sa pratique, de son action. La messe à Colombey, par exemple, est un rituel imparable lorsqu'il s'y trouve. C'est un élément important, mais ce n'est pas le seul important, je dirais, du paysage à la fois intellectuel et philosophique du général.
Pourquoi forcer face à des portes closes? Il y a des voix qui indiquent d'autres choses. Architecte naïf dans une vaste plaine où tout déborde de colère, de haine. Oh. Oh. Parle-moi de métamorphose, de force qui décuple les soirs de lune rose, le vin que l'on boit pour que les arbres dansent, se mélange à nos corps comme la providence. Oh. Oh. Lorsque tu bouges et que tout bouge autour de toi, les heures rouges de ton enfance reviennent là comme je bouge. Lorsque tout bouge autour de toi, un ciel rouge et inconnu s'ouvre à moi. Que c'était toi, la pluie de sirocco venue d'un pays froid, L'horizon se décore facile en apparence, se mélange à nos corps comme la providence. Les heures rouges de ton enfance reviennent là comme je bouge. Lorsque tout bouge autour de toi, un ciel rouge et inconnu s'ouvre à moi.
Providence, c'est le titre, et Cheval Rex, avec un X, c'est le nom du groupe.
France Inter. De Gaulle 2020.
Nous nous intéressons aujourd'hui au mythe de Gaulle, à la légende, et comme le disait joliment Pierre Nora, De Gaulle peint lui-même une toile comme Vermeer, où la lumière que l'on croit éclairer le tableau vient du tableau lui-même. Et pour éclairer le tableau, il faut être quand même un peu humain, et nous allons explorer cet aspect-là avec la journaliste Christine Claire. Bon, alors il y aura des dimanches plus sarcastiques, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire du mal du général, puisqu'on explore le mythe, la légende, avec ce qui le vénère toujours. Christine Claire en est à son 4e livre sur De Gaulle. Le dernier traite du départ du général en 69. Adieu la France, pourquoi De Gaulle est parti, aux éditions de l'Observatoire. On continue sur l'un des éléments de la légende De Gaulle, l'homme qui doute. Et oui, De Gaulle doutait.
J'ai découvert une sensibilité, finalement, et même par moments un côté dépressif. Réel ou joué, parce qu'il en jouait beaucoup. Hein. Mais bon,
c'est-à-dire il en jouait quand il rencontrait des gens.
Par moment dans sa vie politique même, il est arrivé qu'il soit vraiment déprimé. Il a même une fois songé au suicide.
On parle de Dakar.
Voilà, oui.
L'opération ratée. Il aurait voulu se suicider.
Voilà, mais dans plusieurs épisodes où il joue la déprime. Et je me souviens, avant de revenir, par exemple en 58, il avait l'air complètement épuisé, déprimé, c'était fini. Or, il était en train de préparer son retour. Donc, dire que par moment, il était capable d'en jouer. Mais par moment aussi, c'était réel. C'était réel. Et quand il voit qu'il a quitté le pouvoir en 46 et que finalement, on ne le rappelle pas, que ça va durer très longtemps.
Il crée le RPF et finalement, c'est un échec.
Bon, c'est d'abord une envolée magnifique et puis c'est un échec. Donc, il a connu plusieurs échecs. Et à ce moment-là, il a vraiment connu des moments de déprime. Bon, évidemment, le pire étant en mai 68 et en 69. Oui.
Dernier discours du général de Gaulle en public à Quimper en février 69, c'est une archivina.
Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple qui, par la voie du référendum, en décidera souverainement. Et puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Vive la République ! Vive la France !
On retient souvent qu'il est à côté de la plaque en 68. Que c'est l'homme fini, que c'est l'homme d'un autre siècle.
On le lui dit en tout cas.
On le lui dit, lui se demande. Et puis finalement, en 69, quand on regarde ses prises de parole, en 69, que ce soit l'interview avec Michel Droit ou alors le discours de Quimper, finalement, il tire les leçons. Il parle d'une certaine décentralisation, c'est plutôt une déconcentration, mais il parle aussi de l'université où il faut changer peut-être certaines hiérarchies, il parle d'horizontalité.
Il connaît vraiment des doutes, il connaît vraiment des déprimes, il lance ce projet de référendum à Quimper, Et puis, bah ça ne prend pas. D'abord à Quimper, ce qu'on ne dit pas, ce que la télévision ne dit pas, parce que tout est coupé, mais il est sifflé quand même, il est sifflé. Et il sent bien que ça ne marche pas comme il espérait. Il y a une fêlure. Il y a aussi le côté, j'allais dire malicieux, le côté, c'est-à-dire il tâte le terrain. Il dit à coup, bon, et finalement, ce référendum, faut-il le faire après tout? Les Français s'en fichent, ça n'a pas d'importance. Tout le monde lui dit, mais enfin, c'est
quand
pas possible.
Quand le général a dit quelque chose, faut le faire, oui.
Le général annonce qu'il ne peut pas dire un mois après, je change d'avis et je recule. Mais il tâte pour voir comment ils vont réagir. C'est surtout ça, je crois, au fond de lui-même. Il sait bien qu'il ne peut pas reculer. De Gaulle ne recule pas. Bon.
Et finalement, il perd. Ben, alors, est-ce qu'il croyait vraiment... Est-ce qu'il a été surpris un petit peu comme en 65, quand il a été surpris d'être en ballotage? Est-ce que là, il est surpris?
Non, il n'est pas surpris. Il n'a pas cessé de dire que ce serait une belle sortie. C'est ce qu'ont pensé Romain Gary et André Malraux. Mais en même temps... Il sent bien, c'est une histoire d'amour. Il sent bien que son grand amour, la France, s'est détaché de lui. Et il se dit, mais si finalement elle l'aimait toujours, voilà. Il espère, parce que tout de même, elle lui a donné des preuves d'amour, elle lui a donné des preuves de confiance, cette France. Et dans les moments graves, elle est revenue vers lui. Ça serait bien d'en sortir, ça serait une belle sortie, ça serait digne, très démocratique. On lui reprochait d'être un dictateur. Bon, il partirait sur un référendum, ça serait bien la première et la seule fois. Et puis, il espère quand même que ce témoignage qu'il a reçu en 68 n'était pas uniquement un témoignage de trouille. Il espère qu'il y avait un peu d'amour.
Cet homme pénétré de l'amour de son pays, offrit par son exemple et par sa parole, sur les champs de bataille, comme bientôt en exil à Londres, sa confiance inébranlable dans le destin de la France. C'est là son honneur et sa grandeur.
Emmanuel Macron à Montcornet le 17 mai 2020, le mythe se porte bien et même de mieux en mieux. Dominique Schnapper.
Je pense que profondément, la France se sent en déclin. Que la grande nation fait partie des mythologies nationales et que le général de Gaulle, rétrospectivement, apparaît comme une des dernières incarnations de la grandeur de la France, même si elle était beaucoup construite sur le verbe plutôt que sur la réalité. Mais nous sommes aussi une nation très littéraire, et donc le verbe du général de Gaulle nous donne une certaine nostalgie, à la fois pour peut-être pour la vraie grandeur de la France, en tout cas pour la grandeur telle de la France telle que le général de Gaulle la formulait.
La geste gaullienne
remplacée par les hommes politiques démocratiques qui peuvent apparaître beaucoup plus médiocres et qui n'ont pas affaire aussi aux mêmes circonstances historiques.
Ils n'ont pas été triés par l'histoire non plus.
Ils n'ont pas été triés par l'histoire. Jamais Churchill n'aurait été au pouvoir sans la guerre. Jamais le général de Gaulle n'aurait eu le rôle qu'il avait sans la guerre. Mais le fait est qu'ils ont eu une expérience tranquille, que la gestion des nations est assez technique et que la technique n'enthousiasme pas les hommes et que donc cette geste patriotique, c'est nous donne maintenant une certaine nostalgie d'un moment où la France pouvait se sentir au centre du monde.
Philippe Le Guillou. Le gaullisme est quand même aussi inséparable d'un contexte historique. Alors évidemment, on peut dire que l'on peut souhaiter la grandeur de la France.
Ce sont les circonstances.
Son indépendance, etc. Oui. Donc il y a quelques grands principes, si vous voulez, constitutifs du gaullisme. Mais le gaullisme est lié à un terreau historique très, très particulier, qui est celui de 40 d'abord, et celui de 58, et des années de la décolonisation, et de la guerre d'Algérie, etc. Tout ça est quand même très, très, très lié. Et on ne peut pas non plus dissocier l'aventure du général du contexte même historique dans lequel elle s'est déployée.
Alors est-ce que finalement le gaullisme n'est pas tout simplement un nouveau bonapartisme, Denis Tillinac?
Bon, le bonapartisme, c'est une nostalgie de la grandeur, c'est le sentiment d'appartenir à un pays qui a eu du talent, du génie, du souffle, du panache, et puis qu'une pente à la médiocrité nous menace. Bon, ben, le gaulliste, c'est un peu pareil. Hein. Le gaulliste, c'est un...
C'est une nostalgie.
C'est un romantisme. C'est un romantisme. Un romantisme de la solitude de la France esquive de noblesse et de beauté perdue dans un océan de trivialité. C'est un peu ça, hein, c'est. Et le gaullisme, c'est quand même aussi un art de gouverner. C'est pour ça qu'à l'occasion de ces commémorations, moi, j'ai été ravi que le président Macron aille à Montcornet le 17 mai. Parce que c'est là que le mythe se légitime, se prélégitime en quelque sorte. Et alors justement, avec la cohésion de ces commémorations, je ne voudrais pas qu'on enfouisse De Gaulle sous les louanges. Il n'y a rien d'anachronique dans l'apologie d'un art de gouverner qui fut le sien, qui à mon avis est toujours valable. Toujours se référer à la mémoire longue de ce pays et pas au dernier sondage, dernier engouement de l'opinion. Deuxièmement, de la tenue. L'État et ceux qui l'incarnent au premier chef doivent se tenir. Troisièmement, un verbe rare et solennel. Ça, plus on est menacé par l'éphémère, l'instantané, le fake news, plus le verbe présidentiel, je dis bien présidentiel, doit rester rare et solennel. Vous savez, le président de la République, c'est pas un chancelier allemand ou un premier ministre britannique, hein, c'est un roi couronné. C'est bien ainsi que De Gaulle avait conçu les institutions de la Ve République. C'est, il y a 15 siècles d'inconscient monarchiste sous son trône, si je puis dire, plus la grandeur napoléonienne. Vous savez, Paul Valéry disait « Tout pouvoir repose sur une croyance ». Bon, ben, les gens ne croient plus en grand-chose. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas s'il est possible, mais elle est nécessaire. Et le président de la République en a bien conscience. Pendant sa campagne même, dans une interview, il a dit qu'il manquait quelque chose sur ce trône élyséen. Hein, c'était la figure symbolique du roi absent. Il a essayé d'être rare, solennel et un peu altier. On a l'impression à la fois que l'esprit, l'air du temps, et je dirais la Macronie, c'est-à-dire le sérail, son entourage, ce qu'il a promu, l'ont empêché de revêtir totalement les habits gaulliens pour s'installer à l'altitude requise. Cette altitude, je crois qu'il la voit, il la perçoit, cet horizon, de temps en temps, je le sens bien. C'est pour ça que j'arrive pas à désespérer de Macron, mais je crois qu'il ne peut devenir gaullien et sauver son quinquennat de la médiocrité qu'en se débarrassant, qu'en s'émancipant du macronisme et des macroniens. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire de ma part.
Vous retrouverez toutes les références des livres de nos invités d'aujourd'hui sur la page de l'émission du site de France Inter. La semaine prochaine, dans un nouveau numéro de De Gaulle 2020, on continue sur le mythe et la légende du général avec un regard un peu plus distancié, celui de l'historien anglais Julian Jackson. Merci à Claire Destacan qui a réalisé cette émission, à Yann Frécy pour les prises de son, à Serge Viguier à la technique aujourd'hui et à Karen Day et Claire Tesser qui ont déterré pour nous de belles archives. À la semaine prochaine en direct, à quand vous voulez en podcast et d'ici là, bel été.